Chapitre 2. Don Juan, rentré dans sa chambre, se jeta tout habillé sur son lit. Il passa la nuit sans dormir, ne pensant qu'au meurtre qu'il venait de commettre et surtout à ses conséquences. Chaque fois qu'il entendait dans la rue les pas d'un homme, il s'imaginait que la justice venait l'arrêter. Cependant, comme il était fatigué et qu'il avait encore la tête lourde par suite du dîner d'étudiants auquel il avait assisté, il s'endormit au moment où le soleil se levait. Il reposait déjà depuis quelques heures, quand son domestique l'éveilla en lui disant qu'une dame voilée demandait à lui parler. Au même moment, une femme entra dans la chambre. Elle était enveloppée de la tête aux pieds d'un grand manteau noir qui ne lui laissait qu'un œil découvert. Cet œil, elle le tourna vers le domestique, puis vers Don Juan, comme pour demander à lui parler sans témoin. Le domestique sortit aussitôt. La dame s'assit, regardant Don Juan de tout son œil avec la plus grande attention. Après un moment de silence, elle commença de la sorte. « Seigneur cavalier, ma démarche a de quoi vous surprendre, et vous devez sans doute concevoir de moi une médiocre opinion. » Mais si l'on connaissait les motifs qui m'amènent ici, sans doute on ne me blâmerait pas. Vous vous êtes battu hier avec un cavalier de cette ville. Moi, madame, s'écria Don Juan pâlissant, non, je ne suis pas sorti de cette chambre. Il est inutile de feindre avec moi, et je dois vous donner l'exemple de la franchise. En parlant ainsi, elle écarta son manteau, et Don Juan reconnut Donna Teresa. « Seigneur Don Juan, poursuivit-elle en rougissant, je dois vous avouer que votre bravoure m'a intéressé pour vous au dernier point. J'ai remarqué, malgré le trouble où j'étais, que votre épée s'était brisée et que vous l'aviez jetée à terre auprès de notre porte. Au moment où l'on s'empressait autour du blessé, je suis descendu et j'ai ramassé la poignée de cette épée. Et la considérant, j'ai lu votre nom et j'ai compris combien vous seriez exposé si elle tombait entre les mains de vos ennemis. La voici. Je suis bien heureuse de pouvoir vous la rendre. » Comme de raison, Don Juan tomba à ses genoux, lui dit qu'il lui devait la vie, mais que c'était un présent inutile, puisqu'il allait le faire mourir d'amour. Doña Teresa était pressée et voulait se retirer sur le champ. Cependant, elle écoutait Don Juan avec tant de plaisir qu'elle ne pouvait se décider à s'en retourner. Une heure à peu près se passa de la sorte, toute remplie de serments d'amour éternel, de baisements de mains, prières d'une part, faible refus de l'autre. Don Garcia, entrant tout à coup, interrompit le tête-à-tête. Il n'était pas homme à se scandaliser. Son premier soin fut de rassurer Teresa. Il loua beaucoup son courage, sa présence d'esprit, et finit par la prier de s'entremettre auprès de sa sœur afin de lui ménager un accueil plus humain. Doña Teresa promit tout ce qu'il voulait, s'enveloppa hermétiquement dans son manteau et partit après avoir promis de se trouver le soir même avec sa sœur dans une partie de la promenade qu'elle désigna. « Mais nos affaires vont bien, » dit Don Garcia, aussitôt que les deux jeunes gens furent seuls. « Personne ne vous soupçonne. Le corregidor, qui ne me veut nul bien, m'avait d'abord fait l'honneur de penser à moi. Il était persuadé, disait-il, que c'était moi qui avais tué Don Cristobal. Savez-vous ce qui lui a fait changer d'opinion ? Eh bien, c'est qu'on lui avait dit que j'avais passé toute la soirée avec vous. » Et vous avez, mon cher, une si grande réputation de sainteté que vous en avez à revendre pour les autres. Quoi qu'il en soit, on ne pense pas à nous. L'espièglerie de cette brave petite Teresa nous rassure pour l'avenir. Ainsi n'y pensons plus et ne songeons qu'à nous amuser. Oh, Garcia, s'écria tristement Don Juan, c'est une bien triste chose que de tuer un de ses semblables. Il y a quelque chose de plus terrible, de plus triste, répondit Don Garcia. C'est qu'un de nos semblables nous tue. Et une troisième chose qui surpasse les deux autres en tristesse, C'est un jour passé sans dîner. Allez, c'est pourquoi je vous invite à dîner aujourd'hui avec quelques bons vivants qui seront charmés de vous voir. » En disant ces mots, il sortit. L'amour faisait déjà une puissante diversion au remords de notre héros. La vanité acheva de les étouffer. Les étudiants avec lesquels il dîna chez Garcia avaient appris pour lui quel était le véritable meurtrier de Don Cristoval. Ce Cristoval était un cavalier fameux par son courage et par son adresse, redouté des étudiants. Aussi sa mort ne pouvait qu'exciter leur gaieté et son heureux adversaire fut accablé de compliments. À les entendre, il était l'honneur, la fleur, le bras de l'université. Sa santé fut bue avec enthousiasme et un étudiant de Murcie improvisa un sonnet à sa louange dans lequel il le comparait au Cid et à Bernard del Carpio. En se levant de table, Don Juan se sentait bien encore quelques paroles sur le cœur, mais s'il avait eu le pouvoir de ressusciter Don Cristoval, il est douteux qu'il en eût fait usage, de peur de perdre la considération et la renommée que cette mort lui avait acquise dans toute l'université de Salamanque. Le soir venu, les deux côtés ont fut exact au rendez-vous qui eut lieu sur les bords de la Tormes. Doña Teresa prit la main de Don Juan, mais ne donnait pas encore le bras aux femmes, et Doña Fausta celle de Don Garcia. Après quelques tours de promenade, les deux couples se séparèrent fort contents, avec la promesse de ne pas laisser échapper une seule occasion de se revoir. En quittant les deux sœurs, ils rencontrèrent quelques bohémiennes qui dansaient avec des tambours de basque au milieu d'un groupe d'étudiants. Ils se mêlèrent à eux. Les danseuses plurent à Don Garcia, qui résolut de les emmener souper. La proposition fut aussitôt faite et aussitôt acceptée. En sa qualité de fidus Acates, Don Juan était de la partie. Piqué de ce qu'une des bohémiennes lui avait dit qu'il avait l'air d'un moine novice, il s'étudia à faire tout ce qu'il fallait pour prouver que ce surnom était mal appliqué. Il jura, dansa, joua et but autant à lui seul que deux étudiants de seconde année auraient pu le faire. On eut beaucoup de peine à le ramener chez lui après minuit, un peu plus qu'ivre et dans un tel état de fureur qu'il voulait mettre le feu à Salamanque et boire toute la Tormes pour empêcher d'éteindre l'incendie. C'est ainsi que Don Juan perdait, l'une après l'autre, toutes les heureuses qualités que la nature et son éducation lui avaient données. Au bout de 3 mois de séjour à Salamanque, sous la direction de Don Garcia, il avait tout à fait séduit la pauvre Teresa. Son camarade avait réussi de son côté 8 à 10 jours plus tôt. D'abord, Don Juan aima sa maîtresse avec tout l'amour qu'un enfant de son âge a pour la première femme qui se donne à lui. Mais Don Garcia lui démontra sans peine que la constance était une vertu chimérique, et de plus que s'il se conduisait autrement que ses camarades dans les orgies universitaires, il serait cause que la réputation de la Teresa recevrait des atteintes. Car, disait-il, il n'y a qu'un amour très violent et satisfait qui se contente d'une seule femme. En outre, la mauvaise compagnie dans laquelle Don Juan était plongé ne lui laissait pas un moment de repos. Il paraissait à peine dans les classes, ou bien, affaibli par l'éveil et la débauche, il s'assoupissait aux doctes leçons des plus illustres professeurs. En revanche, il était toujours le premier et le dernier à la promenade. Et quant à ses nuits, il passait régulièrement au cabaret ou en pire lieu, celle que Doña Teresa ne pouvait lui consacrer. Un matin, il avait reçu un billet de cette dame qui lui exprimait le regret de manquer un rendez-vous promis pour la nuit. Une vieille parente venait d'arriver à Salamanque et on lui donnait la chambre de Teresa qui devait coucher dans celle de sa mère. Ce désappointement affecta très médiocrement Don Juan, qui trouva le moyen d'employer sa soirée. Au moment qu'il sortait dans la rue, préoccupé de ses projets, une femme voilée lui remit un billet. Il était de Donia Teresa. Elle avait trouvé moyen d'avoir une autre chambre et avait tout arrangé avec sa sœur pour le rendez-vous. Don Juan montra la lettre à son Garcia. Ils hésitèrent quelque temps, puis enfin, machinalement et comme par habitude, ils escaladèrent le balcon de leur maîtresse et demeurèrent avec elle. Donia Teresa avait à la gorge un signe assez apparent. Ce fut une immense faveur que reçut Don Juan la première fois qu'il eut la permission de le regarder. Pendant quelque temps, il continua à le considérer comme la plus ravissante chose du monde. Tantôt, il le comparait à une violette, tantôt à une anémone, tantôt à la fleur de l'alfalfa. Mais bientôt, ce signe, qui était réellement fort joli, cessa par la satiété de lui paraître tel. Bon, « c'est une grande tache noire, voilà tout », se disait-il en soupirant. « C'est dommage qu'elle se trouve là. Parbleu, c'est que cela ressemble à une couenne de lard. Le diable emporte le signe. » Un jour même, il demanda à Teresa si elle n'avait pas consulté un médecin sur les moyens de le faire disparaître. À quoi la pauvre fille répondit, en rougissant jusqu'au blanc des yeux, qu'il n'y avait pas un seul homme, excepté lui, qui eût vu cette tache, et qu'au surplus, sa nourrice avait coutume de lui dire que de tels signes portaient bonheur. Le soir que j'ai dit, Don Juan, étant venu au rendez-vous d'assez mauvaise humeur, revit le signe en question, qui lui parut encore plus grand que les autres fois. « C'est parbleu la représentation d'un gros rat !» se dit-il à lui-même en le considérant. « En vérité, mais c'est une monstruosité. C'est un signe de réprobation comme celui dont fut marqué Caïn. Il faut avoir le diable au corps pour faire sa maîtresse d'une pareille femme. » Il fut maussade au dernier point. Il querella sans sujet la pauvre Teresa, la fit pleurer et la quitta vers l'aube, sans vouloir l'embrasser. Don Garcia, qui sortait avec lui, marcha quelque temps sans parler. Puis, s'arrêtant tout d'un coup, « Convenez, Don Juan, dit-il, que nous nous sommes bien ennuyés cette nuit. Oh, pour moi, j'en suis encore excédé, et j'ai bien envie d'envoyer une bonne fois la princesse à tous les diables. » « Vous avez tort, dit Don Juan. La Fausta est une charmante personne, blanche comme un cygne, elle est toujours de bonne humeur. Et puis elle vous aime tant. En vérité, vous êtes bien heureux. Mais blanche, à la bonne heure, oui, je conviens qu'elle est blanche, mais elle n'a pas de couleur, et à côté de sa sœur, elle semble un hibou auprès d'une colombe. C'est vous qui êtes bien heureux. » Comme cela, répondit Don Juan. La petite est assez gentille, mais c'est une enfant. Il n'y a pas à causer raisonnablement avec elle. Elle a la tête farcie de romans de chevalerie, et elle s'est fait sur l'amour les opinions les plus extravagantes. Vous ne vous faites pas une idée de son exigence. C'est que vous êtes trop jeune encore, Don Juan, et vous ne savez pas dresser vos maîtresses. Une femme, voyez-vous, c'est comme un cheval. Si vous lui laissez prendre de mauvaises habitudes, si vous ne lui persuadez pas que vous ne lui pardonnerez aucun caprice, jamais vous n'en pourrez rien obtenir. Mais dites-moi, Don Garcia, traitez-vous vos maîtresses comme vos chevaux? Employez-vous souvent la gaule pour leur faire passer leurs caprices? Non, rarement, mais je suis trop bon. Tenez, Don Juan, voulez-vous céder votre Teresa? Je vous promets qu'au bout de 15 jours, elle sera souple comme un gant. Je vous offre Fausta en échange. Vous faut-il du retour? Le marché serait assez de bon goût, dit Don Juan en souriant, si ces dames de leur côté y consentaient. Mais Donia Fausta ne voudrait jamais vous céder. Elle perdrait trop au change. Vous êtes trop modeste, mais rassurez-vous. Je l'ai tant fait enrager hier que le premier venu lui semblerait auprès de moi comme un ange de lumière pour un damné. Savez-vous, Don Juan, poursuivit Don Garcia, que je parle très sérieusement. Et Don Juan rit plus fort du sérieux avec lequel son ami débitait ses convoyeuses extravagances. Cette édifiante conversation fut interrompue par l'arrivée de plusieurs étudiants qui donnèrent un autre cours à leurs idées. Mais le soir venu, les deux amis étaient assis devant une bouteille de vin de Montilla, accompagnée d'une petite corbeille remplie de glands de balance, et Don Garcia se remit à se plaindre de sa maîtresse. Il venait de recevoir une lettre de Fausta, pleine d'expressions tendres et de doux reproches, au milieu desquels on voyait percer son esprit enjoué et son habitude de saisir le côté de chaque chose. « Tenez !» dit Don Garcia, tendant la lettre à Don Juan, et bâilla outre mesure. « Lisez ce beau morceau. Encore un rendez-vous pour ce soir. Oh, mais le diable m'emporte si j'y vais !» Don Juan lut la lettre, qui lui parut charmante. « En vérité, dit-il, si j'avais une maîtresse comme la vôtre, toute mon étude serait de la rendre heureuse. »« Mais prenez-la donc, mon cher, s'écria Don Garcia, prenez-la, passez-vous-en la fantaisie. Je vous abandonne mes droits. » »« Faisons mieux, ajouta-t-il en se levant, comme éclairé par une inspiration soudaine. « Jouons nos maîtresses. Voici des cartes. Faisons une partie d'ombre. Donia Fausta est mon enjeu, et vous mettez sur la table Donia Teresa. » Don Juan, riant aux larmes de la folie de son camarade, prit les cartes et les mêla. Quoiqu'il ne mît presque aucune attention à son jeu, il gagna. Don Garcia, sans paraître chagrin de la perte de sa partie, demanda ce qu'il fallait pour écrire, et fit une espèce de billet à ordre tiré sur Donia Fausta, à laquelle il enjoignait de se mettre à la disposition du porteur, absolument comme s'il eût écrit à son intendant de compter sans ducat un de ses créanciers. Don Juan, riant toujours, offrait à Don Garcia de lui donner sa revanche, mais celui-ci refusa. « Si vous avez un peu de courage, dit-il, prenez mon manteau, allez à la petite porte que bien vous connaissez. Vous me trouverez que Fausta, puisque la Teresa ne vous attend pas. Suivez-la, sans dire un mot, une fois dans sa chambre, je me fort bien qu'elle éprouve un moment de surprise, qu'elle verse même une larme ou deux, mais que ça ne vous arrête pas. Soyez sûr qu'elle n'osera pas crier. Montrez-lui alors ma lettre. Dites-lui que je suis un horrible scélérat, un monstre, enfin tout ce que vous voudrez. Qu'elle a une vengeance facile et prompte, et cette vengeance, soyez certain qu'elle la trouvera bien douce. » À chacune des paroles de Garcia, le diable entrait plus avant dans le cœur de Don Juan. Il lui disait que ce qu'il avait jusqu'à présent regardé que comme une plaisanterie sans but pouvait se terminer pour lui de la manière la plus agréable. Il cessa de rire et le rouge du plaisir commença à lui monter au front. « Si j'étais assuré, dit-il, que Fausta consentit à cet échange, « si elle consentira !» s'écria le libertin. « Mais quel blanc-bec êtes-vous, mon camarade, pour croire qu'une femme puisse hésiter entre un amant de 6 mois et un amant d'un jour ? Allez, vous m'en remercierez tous les deux demain, n'en doute pas. Et la seule récompense que je vous demande, c'est de me permettre de faire la cour à Teresita pour me dédommager. » Puis, voyant que Don Juan était plus qu'à moitié convaincu, il lui dit « Oh, décidez-vous, car pour moi, je ne veux pas voir Fausta ce soir. Si vous n'en voulez pas, je donne ce billet au gros Patrick, c'est lui qui en aura l'aubaine. » « Ma foi, arrive que pourra, s'écria Don Juan en saisissant le billet. Et pour se donner du courage, il avala d'un trait un grand verre de Montilla. L'heure approchait. Don Juan, qu'un reste de conscience retenait encore, buvait coup sur coup pour s'étourdir. Enfin, l'horloge sonna. Don Garcia jeta son manteau sur les épaules de Don Juan et le conduisit jusqu'à la porte de sa maîtresse. Puis, ayant fait le signal convenu, il lui souhaita une bonne nuit et s'éloigna sans le moindre remords de la mauvaise action qu'il venait de commettre. Aussitôt, la porte s'ouvrit. Donia Fausta attendait depuis quelque temps. Est-ce vous, Don Garcia ? Demanda-t-elle à voix basse. Oui, répondit Don Juan encore plus bas, et la figure cachée sous les plis d'un large manteau. Il entra, et la porte s'étant refermée, Don Juan commença à monter un escalier obscur avec son guide. Prenez le bout de ma mantille, dit-elle, et suivez-moi le plus doucement que vous pourrez. En peu d'instants, il se trouva dans la chambre de Fausta. Une lampe seule y jetait une médiocre clarté. D'abord, Don Juan, sans ôter son manteau ni son chapeau, se tint debout, le dos près de la porte, n'osant encore se découvrir. Doña Fausta le considéra quelque temps sans rien dire, puis tout d'un coup, elle s'avança vers lui en lui tendant les bras. Don Juan, laissant alors tomber son manteau, imita son mouvement. « Quoi, c'est vous, seigneur Don Juan ? » s'écria-t-elle. « Est-ce que Don Garcia est malade ?»« Malade, non, dit Don Juan. Mais il ne peut venir, il m'a envoyé auprès de vous. »« Oh, que j'en suis fâché ! Mais dites-moi, ce n'est pas une autre femme qui l'empêche de venir ?» Ah, vous le savez donc bien, libertin. Que ma sœur va être contente de vous voir. La pauvre enfant, elle croyait que vous ne viendriez pas. Laissez-moi passer, je vais l'avertir. Non, non, c'est inutile. Votre air est singulier, Don Juan. Vous avez une mauvaise nouvelle à m'apprendre. Parlez, s'il est arrivé quelque malheur à Don Garcia. Pour s'épargner une réponse embarrassante, Don Juan entendit à la pauvre fille l'infâme billet de Don Garcia. Elle le lut avec précipitation et ne le comprit pas d'abord. Elle le relut et n'en put croire ses yeux. Don Juan l'observait avec attention et la voyait tour à tour s'essuyer le front, se frotter les yeux. Ses lèvres tremblaient, une pâleur mortelle couvrait son visage. Elle était obligée de tenir à deux mains le papier pour qu'il ne tombât pas à terre. Enfin, se levant par un effort désespéré, elle s'écria. « Mais tout est faux, c'est une horrible fausseté. Don Garcia n'a jamais écrit cela. » Don Juan répondit. « Vous connaissez son écriture. Il ne savait pas le prix du trésor qu'il possédait. » Et moi, bien moi, j'ai accepté parce que je vous adore. » Elle jeta sur lui un regard du plus profond mépris et se mit à relire la lettre avec l'attention d'un avocat qui soupçonne une falsification dans un acte. Ses yeux étaient démesurément ouverts et fixés sur le papier. De temps en temps, une grosse larme s'en échappait sans qu'elle clignât la paupière et tombait en glissant sur ses joues. Tout à coup, elle sourit d'un sourire de fou et s'écria « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? C'est une plaisanterie ! Don Garcia est là, il va venir !»« Ce n'est point une plaisanterie, Doña Fausta. Il n'y a rien de plus vrai que l'amour que j'ai pour vous. Je serais bien malheureux si vous ne me croyez pas. »« Misérable ! » s'écria Doña Fausta. « Mais si tu dis vrai ! » Tu es un plus grand scélérat encore que Don Garcia. L'amour excuse tout, belle Faustita. Don Garcia vous abandonne. Prenez-moi pour vous consoler. Je vois peint sur ce panneau Bacchus et Ariane. Laissez-moi être votre Bacchus. Sans répondre un mot, elle saisit un couteau sur la table et s'avança vers Don Juan en le tenant élevé au-dessus de sa tête. Mais il avait vu le mouvement. Il lui saisit le bras, la désarma sans peine, et se croyant autorisé à la punir de ce commencement d'hostilité, il l'embrassa 3 ou 4 fois et voulut l'entraîner vers un petit lit de repos. Doña Fausta était une femme faible et délicate, mais la colère lui donnait des forces. Elle résistait à Don Juan, tantôt se cramponnant au meuble, tantôt se défendant des mains, des pieds et des dents. D'abord, Don Juan avait reçu quelques coups en souriant, mais bientôt la colère fut chez lui aussi forte que l'amour. Il étreignit fortement Fausta, sans craindre de froisser sa peau délicate. C'était un lutteur irrité qui voulait à tout prix triompher de son adversaire, prêt à l'étouffer s'il fallait pour le vaincre. Fausta eut alors recours à la dernière ressource qui lui restait. Jusque-là, un sentiment de pudeur féminine l'avait empêché d'appeler à son aide. Mais se voyant sur le point d'être vaincue, elle fit retentir la maison de ses cris. Don Juan sentit qu'il ne s'agissait plus pour lui de posséder sa victime et qu'il devait avant tout songer à sa sûreté. Il voulut repousser Fausta et gagner la porte, mais elle s'attachait à ses habits et il ne pouvait s'en débarrasser. En même temps, se faisait entendre le bruit alarmant de portes qui s'ouvraient. Des pas et des voix d'hommes s'approchaient. Il n'y avait pas un instant à perdre. Il fit un effort pour rejeter loin de lui Donna Fausta, mais elle l'avait saisi par le pourpoint avec tant de force qu'il tourna sur lui-même avec elle sans avoir gagné autre chose que de changer de position. Fausta était alors du côté de la porte qui s'ouvrait en dedans. Elle continuait ses cris. En même temps, la porte s'ouvre. Un homme tenant une arquebuse à la main paraît à l'entrée. Il laisse échapper une exclamation de surprise et une détonation suit aussitôt. La lampe s'éteignit et Don Juan sentit que les mains de Doña Fausta se desserraient et que quelque chose de chaud et de liquide coulait sur les siennes. Elle tomba, ou plutôt glissa, sur le plancher. La balle venait de lui fracasser l'épine du dos. Son père l'avait tué au lieu de son ravisseur. Don Juan, se sentant libre, s'élança vers l'escalier au milieu de la fumée de l'arquebuse. D'abord, il reçut un coup de crosse du père et un coup d'épée d'un laquais qu'il suivit. Mais ni l'un ni l'autre lui firent beaucoup de mal. Mettant l'épée à la main, il chercha à se frayer un passage et à éteindre le flambeau qui portait le laquais. Effrayé de son air résolu, celui-ci se retira en arrière. Pour Don Talosso de Ojeda, homme ardent et intrépide, il se précipita sur Don Juan sans hésiter. Celui-ci para à quelques bottes et sans doute il n'avait d'abord que l'intention de se défendre. Mais l'habitude de l'escrime fait qu'une riposte après une parade n'est plus qu'un mouvement machinal et presque involontaire. Au bout d'un instant, le père de Doña Fausta poussa un grand soupir et tomba mortellement blessé. Don Juan, trouvant le passage libre, s'élança comme un trait sur l'escalier, de là vers la porte, et en un clin d'œil, il fut dans la rue, sans être poursuivi des domestiques qui s'empressaient autour de leur maître expirant. Doña Teresa, accourue au bruit du coup d'arquebuse, avait vu cette horrible scène et était tombée évanouie à côté de son père. Elle ne connaissait encore que la moitié de son malheur. Don Garcia achevait la dernière bouteille de mantilla lorsque Don Juan, pâle, couvert de sang, les yeux égarés, son pourpoint déchiré et son rabat sortant d'un demi-pied de ses limites ordinaires, entra précipitamment dans sa chambre et se jeta tout haletant sur un fauteuil sans pouvoir parler. L'autre comprit à l'instant que quelque accident grave venait d'arriver. Il laissa Don Juan respirer péniblement deux ou trois fois, puis lui demanda des détails. En deux mots, il fut au fait. Don Garcia, qui ne perdait pas facilement son flegme habituel, écouta sans sourciller le récit entrecoupé que lui fit son ami. « Buvez, dit-il, vous en avez besoin. C'est une mauvaise affaire, ajouta-t-il après avoir bu lui-même. Tuer un père est grave. Il y a bien des exemples, pourtant, à commencer par le Cid. Et le pire, c'est que vous n'avez pas 500 hommes tous habillés de blanc, tous vos cousins pour vous défendre des archers de Salamanque et des parents du défunt. Bon, occupons-nous d'abord du plus pressé. » Il fit deux ou trois tours dans la chambre comme pour recueillir ses idées. « Restez à Salamanque, reprit-il après un Une semblable exclandre, ce serait folie. Ce n'est pas un hobereau que Alonso de Ojeda, et d'ailleurs les domestiques ont dû vous reconnaître. Admettons, pour un moment, que vous n'ayez pas été reconnu. Vous vous êtes acquis maintenant à l'université une réputation si avantageuse qu'on ne manquera pas de vous imputer un méfait anonyme. Ne les croyez pas, il faut partir, et le plus tôt, c'est le mieux. Vous êtes devenu ici 3 fois plus savant qu'il ne s'y est un gentilhomme de bonne maison. Laissez la Minerve et essayez un peu de Mars. Cela vous réussira mieux, car vous avez des dispositions. On se bat en Flandre. Allons tuer des hérétiques. Rien n'est plus propre à racheter nos peccadilles en ce monde. Amen. Je finis comme au sermon. Le mot de Flandre opéra comme un talisman sur Don Juan. Quitter l'Espagne, il croyait que c'était s'échapper à lui-même. Au milieu des fatigues et des dangers de la guerre, il n'aurait pas de loisir pour ses remords. « en Flandre !» s'écria-t-il. « Bon ben, allons-nous faire tuer en Flandre !»« De cela banque à Bruxelles, il y a loin !» reprit gravement Don Garcia. « Mais dans votre position, vous ne pouvez partir trop tôt. Songez que si monsieur le corregidor vous attrape, il vous sera bien difficile de faire une campagne ailleurs que sur les galères de sa majesté. » Après s'être concerté quelques instants avec son ami, Don Juan se dépouilla promptement de son habit d'étudiant. Il prit une veste de cuir brodée telle que comportaient alors les militaires, un grand chapeau rabattu et n'oublia pas de garnir sa ceinture d'autant de doublons que Don Garcia put la charger. Tous ces apprêts ne durèrent que quelques minutes. Il se mit en route à pied, sortit de la ville sans être reconnu, et marcha toute la nuit et toute la matinée suivante, jusqu'à ce que la chaleur du soleil l'obligeât à s'arrêter. À la première ville où il arriva, il s'acheta un cheval, et s'étant joint à une caravane de voyageurs, il parvint sans obstacle à Saragosse. Là, il demeura quelques jours sous le nom de Don Juan Carrasco. Don Garcia, qui avait quitté Salamanque le lendemain de son départ, prit un autre chemin et le rejoignit à Saragosse. Ils n'y firent pas un long séjour. Après avoir accompli fort à la hâte leur dévotion à Notre-Dame du Pilier, non sans leur nier les beautés aragonaises, pourvu chacun d'un bon domestique, ils se rendirent à Barcelone où ils s'embarquèrent pour Civitavecchia. La fatigue, le mal de mer, la nouveauté des sites et la légèreté naturelle de Don Juan, tout se réunissait pour qu'il oubliât vite les horribles scènes qu'il laissait derrière lui. Pendant quelques mois, les plaisirs que les deux amis trouvèrent en Italie leur firent négliger le but principal de leur voyage. Mais les fonds commençant à leur manquer, ils se joignirent à un certain nombre de leurs compatriotes, braves comme eux et légers d'argent, et se mirent en route pour l'Allemagne. Arrivés à Bruxelles, chacun s'enrôla dans la compagnie du capitaine qui lui plut. Les deux amis voulurent faire leurs premières armes dans celle du capitaine Don Manuel Gornare, d'abord parce qu'il était andalou, et ensuite parce qu'il passait pour négliger de ses soldats que du courage et des armes bien polies et en bon état, fort accommodant d'ailleurs sur la discipline. Charmé de leur bonne mine, celui-ci les traita bien et selon leur goût, c'est-à-dire qu'il les employa dans toutes les occasions périlleuses. La fortune leur fut favorable, et là où beaucoup de leurs camarades trouvèrent la mort, ils ne reçurent pas une blessure et se firent remarquer des généraux. Ils obtinrent chacun une enseigne le même jour. Dès ce moment, se croyant sûrs de l'estime et de l'amitié de leur chef, ils avouèrent leur véritable nom et reprirent leur train de vie ordinaire, c'est-à-dire qu'ils passaient le jour à jouer ou à boire, et la nuit à donner des sérénades aux plus jolies femmes des villes où ils se trouvaient en garnison pendant l'hiver. Ils avaient reçu de leurs parents leur pardon, ce qui les toucha médiocrement, et des lettres de crédit sur des banquets d'Anvers. Ils en firent bon usage. Jeunes, riches, braves et entreprenants, leurs conquêtes furent nombreuses et rapides. Mais on ne m'arrêterait pas à les raconter. Qu'il suffise au lecteur de savoir que, lorsqu'il voyait une jolie femme, tous les moyens leur étaient bons pour l'obtenir. Promesses, serments n'étaient qu'un jeu pour ces indignes libertins. Et si des frères ou des maris trouvaient à redire à leur conduite, ils avaient pour leur répondre de bonnes épées et des cœurs impitoyables. La guerre recommença avec le printemps. Dans une escarmouche qui fut malheureuse pour les Espagnols, le capitaine Gomare fut fortement blessé. Don Juan, qui le vit tomber, courut à lui et appela quelques soldats pour l'emporter. Mais le brave capitaine, rassemblant ce qui lui restait de force, lui dit « Laissez-moi mourir ici, je sens que c'est fait de moi. Autant vous mourir ici qu'une demi-lieue plus loin. Gardez vos soldats, ils vont être assez occupés, car je vois les Hollandais qui s'avancent en force. « Enfant, ajouta-t-il en s'adressant aux soldats qui s'empressaient autour de lui, « serrez-vous autour de vos enseignes et ne vous inquiétez pas de moi. » Don Garcia survint en ce moment et lui demanda s'il n'avait pas quelque dernière volonté qui peut être exécutée après sa mort. « Que diable voulez-vous que je veuille dans un moment comme celui-ci ? » Il parut se recueillir quelques instants. « J'ai jamais beaucoup songé à la mort, reprit-il, et je la croyais pas si prochaine. Je serais pas fâché d'avoir auprès de moi quelques prêtres, mais tous nos moines sont au bagage. Il est dur pourtant de mourir sans confession. » « Voici mon livre d'heures, dit Don Garcia en lui présentant un flacon de vin. « Prenez courage !» Les yeux du vieux soldat devenaient de plus en plus troubles. La plaisanterie de Don Garcia ne fut pas remarquée par lui, mais les vieux soldats qui l'entouraient en furent scandalisés. « Don Juan, dit le moribond, approchez, mon enfant, tenez, je vous fais mon héritier. Prenez cette bourse, elle contient tout ce que je possède. Il vaut mieux qu'elle soit à vous qu'à des excommuniés. La seule chose que je vous demande, c'est de faire dire quelques messes pour le repos de mon âme. » Don Juan promit en lui serrant la main, tandis que Don Garcia lui faisait observer tout bas quelle différence il y avait entre les opinions d'un homme faible quand il meurt et celles qu'il professe assis devant une table couverte de bouteilles. Quelques balles venant à siffler à leurs oreilles leur annoncèrent l'approche des Hollandais. Les soldats reprirent leur rang. Chacun dit adieu à la hâte au capitaine Gomare, et on ne s'occupa plus que de faire retraite en bon ordre. Cela était assez difficile, avec un ennemi nombreux, un chemin défoncé par les pluies et des soldats fatigués d'une longue marche. Pourtant les Hollandais ne purent les entamer et abandonnèrent la poursuite à la nuit sans avoir pris un drapeau ou fait un seul prisonnier qui ne fût blessé. Le soir, les deux amis, assis devant une tente avec quelques officiers, devisait de l'affaire à laquelle il venait d'assister. On blâma les dispositions du commandant du jour et l'on trouva après coup tout ce qu'il aurait fallu faire. Puis on en vint à parler des morts et des blessés. « Pour le capitaine Gomare, dit Don Juan, je le regretterai longtemps. C'était un brave officier, bon camarade, un véritable prêtre pour ses soldats. « Oui, dit Don Garcia. Moi, je vous avouerai que jamais je n'ai été si surpris que lorsque je l'ai vu tant en peine pour n'avoir pas une robe noire à ses côtés. Cela ne prouve qu'une chose, c'est qu'il est plus facile d'être brave en parole qu'en action. Tel se moque d'un danger éloigné qui pâlit quand il s'approche. À propos, Don Juan, puisque vous êtes son héritier, dites-nous ce qu'il y a dans la bourse qu'il vous a laissée. » Don Juan l'ouvrit alors pour la première fois, et vit qu'elle contenait environ 60 pièces d'or. « Et puisque nous sommes en fond, dit Don Garcia, habitué à regarder la bourse de son ami comme la sienne. Pourquoi ne ferions-nous pas une partie de Pharaon, au lieu de pleurnicher ainsi en pensant à nos amis morts ? La proposition fut goûtée de tous. On apporta quelques tambours que l'on couvrit d'un manteau. Ils servirent de table de jeu. Don Juan joua le premier, conseillé par Don Garcia. Mais avant de ponter, il tira de sa bourse 10 pièces d'or qu'il enveloppa dans son mouchoir et qu'il mit dans sa poche. « Que diable voulez-vous en faire ? » s'écria Don Garcia. « Un soldat thésaurisé et la veille d'une affaire. » « Vous savez, Don Garcia, que tout cet argent n'est pas à moi. Don Manuel m'a fait un legs sous poema nominé, comme nous disions à Salamanque. »« La peste soit du fat !» s'écria Don Garcia. « Je crois, le diable m'emporte, qu'il a l'intention de laisser 10 écus au premier curé que nous rencontrerons. »« Mais pourquoi pas, je l'ai promis. Taisez-vous. » « Par la barbe de Mahomet, vous me faites honte, je vous reconnais pas. » Le jeu commença. Les chances furent d'abord variées. Bientôt, elles tournèrent décidément contre Don Juan. En vain, pour rompre la veine, Don Garcia prit les cartes. Au bout d'une heure, tout l'argent qu'il possédait, et de plus les 50 écus du capitaine Gomard, étaient passés dans les mains du banquier. Don Juan voulut aller dormir, mais Don Garcia était échauffé, il prétendit avoir sa revanche et regagner ce qu'il avait perdu. « Allô, monsieur Prudent, dit-il, voyons ces derniers écus que vous avez si bien serrés. Je suis sûr qu'ils nous porteront bonheur. » « Non, songez, Don Garcia, que j'ai promis. Allô, allô, enfant que vous êtes, il s'agit bien de messe à présent. » Le capitaine, s'il était ici, aurait plutôt pillé une église que de laisser passer une carte sans ponter. Mais voilà 5 écus, dit Don Juan, mais ne les exposez pas d'un seul coup. Point de faiblesse, dit Don Garcia, et il mit les 5 écus sur un roi. Il gagna, fit paroli, mais perdit le second coup. Mais voyons les 5 derniers, s'écria-t-il, pâlissant de colère. Don Juan fit quelques objections, facilement surmontées. Il céda et donna 4 écus, qui aussitôt suivirent les premiers. Don Garcia, jetant les cartes au nez du banquier, se leva furieux. Et il dit à Don Juan, « Vous avez toujours été heureux, vous. J'ai entendu dire qu'un dernier écu a un grand pouvoir pour conjurer le sort. » Don Juan était pour le moins aussi furieux que lui. Il ne pensa plus aux messes ni à son serment. Il mit sur un as le seul écu restant et le perdit aussitôt. « Beau diable, l'âme du capitaine Gomard !» s'écria-t-il. « Je crois que son argent était ensorcelé. » Le banquier leur demanda s'il voulait jouer encore. Mais comme il n'avait plus d'argent et qu'on fait difficilement crédit à des gens qui s'exposent tous les jours à se faire casser la tête, force leur fut de quitter le jeu et de chercher à se consoler avec les buveurs. L'âme du pauvre capitaine fut tout à fait oubliée. Quelques jours après, les Espagnols, ayant reçu des renforts, reprirent l'offensive et marchèrent en avant. Ils traversèrent les lieux où l'on s'était battu. Les morts n'étaient pas encore enterrés. Don Garcia et Don Juan pressaient leurs chevaux pour échapper à ces cadavres qui choquaient à la fois la vue et l'odorat, lorsqu'un soldat qui les précédait fit un grand cri à la vue d'un corps gisant dans un fossé. Ils s'approchèrent et reconnurent le capitaine Gomare. Il était pourtant presque défiguré. Ses traits déformés et roidis dans d'horribles convulsions prouvait que ces derniers moments avaient été accompagnés de douleurs atroces. Bien que déjà familiarisé avec de tels spectacles, Don Juan ne put s'empêcher de frémir en voyant ce cadavre, dont les yeux ternes et remplis de sang caillé semblaient dirigés vers lui d'un air de menace. Il se rappela les dernières recommandations du pauvre capitaine et comment il avait négligé de les exécuter. Pourtant, la dureté factice dont il était parvenu à remplir son cœur le délivra bientôt de ses remords. Il fit promptement creuser une fosse pour ensevelir le capitaine. Par hasard, un capucin se trouvait là, qui récita quelques prières à la hâte. Le cadavre, aspergé d'eau bénite, fut recouvert de pierres et de terre, et les soldats poursuivirent leur route, plus silencieux que de coutume. Mais Don Juan remarqua un vieil arquebusier, qui, après avoir longtemps fouillé dans ses poches, y trouva enfin un écu qu'il donna au capucin en lui disant « Voilà pour dire des messes au capitaine Gomare. » Ce jour-là, Don Juan donna des preuves d'une bravoure extraordinaire et s'exposa au feu de l'ennemi avec si peu de ménagement qu'on eût dit qu'il voulait se faire tuer. « Oh les braves, quand on n'a plus le sou !» disaient ses camarades. Peu de temps après la mort du capitaine Gomare, un jeune soldat fut admis comme recrue dans la compagnie où servaient Don Juan et Don Garcia. Il paraissait décidé et intrépide, mais d'un caractère sournois et mystérieux. Jamais on ne le voyait boire ni jouer avec ses camarades. Il passait des heures entières assis sur un banc dans le corps de garde, occupé à regarder voler les mouches ou bien à faire jouer la détente de son arquebuse. Les soldats, qui le raillaient de sa réserve, lui avaient donné le sobriquet de Modesto. C'était sous ce nom qu'il était connu dans la compagnie, et ses chefs même ne lui en donnaient pas d'autre. La campagne finit par le siège de Berg op Zoom, qui fut, comme on le sait, un des plus meurtriers de cette guerre, les assiégés s'étant défendus avec le dernier acharnement. Une nuit, les deux amis se trouvaient ensemble de service à la tranchée, alors tellement rapproché des mitrailles de la place que le poste était des plus dangereux. Les sorties des assiégés étaient fréquentes et leur feu vif et bien dirigé. La première partie de la nuit se passa en alerte continuelle. Ensuite, assiégés et assiégeants parurent céder également à la fatigue. De part et d'autre, on cessa de tirer et un profond silence s'établit dans toute la plaine. Ou s'il était interrompu, ce n'était que par de rares décharges qui n'avaient d'autre but que de prouver que si on avait cessé de combattre, on continuait néanmoins à faire bonne garde. Il était environ 4 heures du matin. C'est le moment où l'homme qui a veillé éprouve une sensation de froid pénible, accompagnée d'une espèce d'accablement moral, produit par la lassitude physique et l'envie de dormir. Il n'est aucun militaire de bonne foi qui ne convienne qu'en de pareilles dispositions d'esprit et de corps. Il s'est senti capable de faiblesse dont il a rougi après le lever du soleil. « Morbleu !» s'écria Don Garcia en piétinant pour se réchauffer et serrant son manteau autour de son corps. « Oh, je sens ma moelle se figer dans mes os. Je crois qu'un enfant hollandais me battrait avec une cruche à bière pour toute arme. » En vérité, je ne me reconnais plus. Voilà une arquebusade qui vient de me faire tressaillir. Moi, si j'étais dévot, il tiendrait qu'à moi de prendre l'étrange état où je me trouve pour un avertissement d'en haut. Tous ceux qui étaient présents, et Don Juan surtout, furent extraits. Ne s'en occupaient guère. Ou s'il en parlait, c'était pour s'en moquer. S'apercevant que plusieurs souriaient à ses paroles, et ranimé par un sentiment de vanité, il s'écria « Oh, que personne au moins n'aille s'aviser de croire que j'ai peur de Hollandais, de Dieu ou du diable, que nous aurions à la garde montante nos comptes à régler ensemble. Passe pour les Hollandais, mais pour Dieu et l'autre, il est bien permis de les craindre, dit un vieux capitaine à moustache grise qui portait un chapelet suspendu à côté de son épée. « Quel mal peuvent-ils me faire ?» demanda-t-il. « Le tonnerre ne porte pas aussi juste qu'une arquebuse protestante. »« Et votre arme ?» dit le vieux capitaine en se signant à cet horrible blasphème. « Oh, pour mon âme, il faudra avant tout que je sois sûr d'en avoir une. »« Qui m'a jamais dit que j'eusse une âme ?»« Les prêtres. Or, l'invention de l'âme leur rapporte de si bons revenus. » qu'il n'est pas douteux qu'il en soit les auteurs, de même que les pâtissiers ont inventé les tables pour les vendre. « Don Garcia, vous finirez mal, » dit le capitaine. « Ces propos-là ne doivent pas se tenir à la tranchée. » Ben, « à la tranchée, comme ailleurs, je dis ce que je pense. » Mais je me tais, car voici mon camarade Don Juan, dont le chapeau va tomber, tant ses cheveux se dressent sur sa tête. Lui ne croit pas seulement à l'homme, il croit encore aux âmes du purgatoire. Je ne suis pourtant point un esprit fort, dit Don Juan en riant, et j'envie parfois votre sublime indifférence pour les choses de l'autre monde. Car, je vous l'avouerai, et dussiez-vous vous moquer de moi, il y a des instants où ce que l'on raconte des damnés me donne des rêveries désagréables. La meilleure preuve du peu de pouvoir du diable, c'est que vous êtes aujourd'hui debout dans cette tranchée. Sur ma parole, messieurs, ajouta Don Garcia en frappant sur l'épaule de Don Juan, s'il y avait un diable, il aurait déjà emporté ce garçon-là. Tout jeune qu'il est, je vous le donne pour un véritable excommunié. Il a mis plus de femmes à mal et plus d'hommes en bière que deux cordeliers et deux braves de Valence n'auraient pu faire. Il parlait encore quand un coup d'arquebuse partit du côté de la tranchée qui touchait au camp espagnol. Don Garcia apporta la main sur sa poitrine et s'écria « Oh, je suis blessé !» Il chancela et tomba presque aussitôt. En même temps, on vit un homme prendre la fuite, mais l'obscurité le déraba bientôt à ceux qui le poursuivaient. La blessure de Don Garcia parut mortelle. Le coup avait été tiré de très près et l'arme était chargée de plusieurs balles. Le fait de ce libertin endurci ne se démentit pas un instant. Il renvoya bien loin ce qui lui parlait de se confesser. Il disait à Don Juan, « Une seule chose me fâche après ma mort, c'est que les Capucins vous persuaderont que c'est un jugement de Dieu contre moi. » Convenez avec moi, qu'il n'y a rien de plus naturel qu'une arquebusade tue un soldat. Ils disent que le coup a été tiré de notre côté. C'est sans doute quelque jaloux rancunier qui m'a fait assassiner. Faites-le pendre au écou, si vous l'attrapez. Écoutez, Don Juan, j'ai deux maîtresses à Anvers, trois à Bruxelles, et d'autres ailleurs que je ne me rappelle guère. Ma mémoire se trouble. Je vous les lègue, faute de mieux. Prenez encore mon épée, et surtout n'oubliez pas la botte que je vous ai apprise. Adieu. Et au lieu de messe, que mes camarades se réunissent dans une glorieuse orgie, après mon enterrement. » Telles furent à peu près ses dernières paroles. De Dieu, de l'autre monde, il ne s'en soucia pas plus qu'il ne l'avait fait en pleine vie et de force. Il mourait le sourire sur les lèvres, la vanité lui donnant la force de soutenir jusqu'au bout le rôle détestable qu'il avait si longtemps joué. Modesto ne reparut plus. Toute l'armée fut persuadée qu'il était l'assassin de Don Garcia, mais on se perdait en vaines conjectures sur les motifs qui l'avaient poussé à ce meurtre. Don Juan regretta Don Garcia plus qu'il aurait fait son frère. Il se disait, l'insensé, qui lui devait tout. C'était lui qui l'avait initié au mystère de la vie, qui avait détaché de ses yeux les cailles épaisses qui les couvraient. Qu'étais-je avant de le connaître, se demandait-il, et son amour-propre lui disait qu'il était devenu un être supérieur aux autres hommes. Enfin, tout le mal qu'en réalité lui avait fait la connaissance de cet athée, il le changeait en bien, et il en était aussi reconnaissant qu'un disciple doit l'être à l'égard de son maître. Les tristes impressions que lui laissa cette mort si soudaine demeurèrent assez longtemps dans son esprit pour l'obliger à changer pendant plusieurs mois son genre de vie. Mais peu à peu, il revint à ses anciennes habitudes, maintenant trop enracinées en lui pour qu'un accident pût les changer. Il se remit à jouer, à boire, à courtiser les femmes et à se battre avec les maris. Tous les jours, il avait de nouvelles aventures. Aujourd'hui, montant à une brèche, le lendemain escaladant un balcon, le matin ferraillant avec un mari et le soir buvant avec des courtisanes. Au milieu de ses débauches, il apprit que son père venait de mourir. Sa mère ne lui avait survécu que de quelques jours, en sorte qu'il reçut les deux nouvelles à la fois. Les hommes d'affaires, d'accord avec son propre goût, lui conseillaient de retourner en Espagne et de prendre possession du majorat et des grands biens dont il venait d'hériter. Depuis longtemps, il avait obtenu sa grâce pour la mort de Don Alfonso de Ojeda, le père de Dona Fosta, et il regardait cette affaire comme entièrement terminée. D'ailleurs, il avait envie de s'exercer sur un plus grand théâtre. Il pensait aux délices de ses villes et aux nombreuses beautés qui n'attendaient sans doute que son arrivée pour se rendre à discrétion. Quittant donc la cuirasse, il partit pour l'Espagne. Il séjourna quelque temps à Madrid, se fit remarquer dans une course de taureaux par la richesse de son costume et de son adresse à piquer. Il y fit quelques conquêtes, mais ne s'y arrêta pas longtemps. Arrivé à Séville, il éblouit petits et grands par son faste et sa munificence. Tous les jours, il donnait des fêtes nouvelles où il invitait les plus belles dames de l'Andalousie. Tous les jours, nouveaux plaisirs, nouvelles orgies dans son magnifique palais. Il était devenu le roi d'une foule de libertins qui, désordonnés et indisciplinables avec tout le monde, lui obéissaient avec cette docilité qui se trouve trop souvent dans les associations des méchants. Enfin, il n'y avait pas de débauche dans laquelle il ne se plongea. Et comme un riche vicieux n'est pas seulement dangereux pour lui-même, son exemple pervertissait la jeunesse andalouse qu'il élevait au nu et le prenait pour modèle. Nul doute que, si la Providence eût souffert plus longtemps son libertinage, il eût fallu une pluie de feu pour faire justice des désordres et des crimes de ces villes. Une maladie qui retint Don Juan dans son lit pendant quelques jours ne lui inspira pas de retour sur lui-même. Au contraire, il ne demandait à son médecin de lui rendre la santé qu'afin de courir à de nouveaux excès.